protéger.
Le sport et les loisirs sont essentiels à l'épanouissement des enfants. Nous devons tous ensemble veiller à leur bien-être lors de ces activités. Ce podcast a pour objectif d'aborder avec des professionnels plusieurs thématiques liées à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons nous demander si, en tant qu'intervenant en sport et loisirs, les droits de l'enfant font partie de notre mission.
Bonjour Coralie, les réalisateurs de ces podcasts nous ont proposé de faire un duo ce matin pour parler d'un sujet spécifique, les droits de l'enfant dans le cadre des activités de loisirs, de sport, de plein air. Et je sais que tu as un rôle particulier, et donc ce serait bien que tu commences peut-être par te présenter.
Oui Bernard, bonjour. Je m'appelle Coralie, je suis coordinatrice accueil temps libre à la commune de Beaulé-Saint-Pierre. Avant ça, j'ai pas mal travaillé dans tout le domaine de l'extrascolaire, école des devoirs, centre de vacances, parascolaire. Et maintenant, mon rôle en tant que coordinatrice accueil temps libre, c'est d'accompagner les structures d'accueil de sport et de loisirs dans la mise en place d'activités de qualité. Et toi Bernard, que fais-tu dans la vie ?
Alors moi je suis éducateur de formation, et puis depuis plus de 12 ans maintenant, je suis le délégué général aux droits de l'enfant. C'est un nom un peu compliqué, mais on a justement décidé tout récemment de le changer, et il s'appellera bientôt le défenseur des enfants. Et mon job, c'est de garantir l'application de la Convention des droits de l'enfant, qui date de 89, et qui reprend une série d'articles qui couvre l'ensemble des réalités de vie des enfants. Et donc, je le fais à travers la récolte de plaintes des questions individuelles, mais aussi de manière collective sur les sujets de société, dont notamment, effectivement, l'accès au sport, l'accès aux loisirs, etc., d'une série d'éléments qui se trouvent d'ailleurs dans la Convention.
Et quelle est ta conception des droits de l'enfant de manière générale ?
Ah, ça, c'est une question difficile, mais je dirais que moi, j'ai toujours estimé que c'était un outil d'amélioration de la société ou des sociétés. S'intéresser aux enfants et à leurs droits, c'est se garantir qu'en grandissant, ils auront été respectés quand ils sont enfants, et on est enfant de 0 à 18 ans. Ils auront senti une attention à leur égard, ils auront senti le fait qu'on les priorise, hein, puisque la Convention des droits de l'enfant, c'est spécifique pour eux. C'est une espèce de déclinaison de la Déclaration des droits de l'homme, hein, c'est une double protection. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que c'était utile d'avoir un texte fondateur qui est très, très partagé. Hein. C'est le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde. C'est certainement un des éléments fondateurs du Rassemblement des États. Alors, évidemment, chaque pays signataire ne respecte pas la Convention de manière idéale. Nous non plus, d'ailleurs. Il y a beaucoup de soucis. Mais donc, je crois toujours que les droits de l'enfant, c'est l'idée du cercle vertueux. Respectons nos enfants. Garantissons-leur des droits, faisons en sorte qu'ils soient entourés, élevés au sens étymologique du terme, et on se garantit des sociétés bien plus pacifiées. Ça, c'est ma conception des droits de l'enfant. Et donc, toi, d'ailleurs, dans ton travail, c'est quoi ta conception des droits de l'enfant ?
Mais disons déjà qu'il y a plusieurs articles de la Convention qui s'appliquent au domaine des sports et des loisirs, mais il y en a vraiment un, l'article 31, qui définit l'accès aux loisirs, l'accès au repos, aux jeux, aux activités récréatives, aux activités culturelles. Et dans cet article, il y a aussi plusieurs notions qui sont importantes. Il y a la notion de loisir. Le loisir, c'est le temps libre pour les activités ludiques et récréatives. C'est un temps où on n'impose pas à l'enfant. Il peut faire un petit peu ce qu'il veut à ce moment-là. Et les activités récréatives, c'est toutes les activités artistique, musical, sportive, le jeu, les randonnées, aller dans la nature, tout ça, ce sont les activités récréatives que l'enfant doit pratiquer de manière libre. Mais il y a aussi une notion importante dans cet article qui est le repos. Et bien souvent, on oublie cette partie-là puisque l'enfant a besoin aussi d'un moment pour se reposer. Et donc, mon message aussi pour les associations de sport et de loisirs, c'est d'accorder également un moment à l'enfant de temps libre. Bernard, quels seraient tes angles d'approche à respecter dans le cadre de l'organisation des activités de sport et de loisirs ?
Je dirais, moi, j'insisterais sur deux axes principaux, d'ailleurs, qu'on cite régulièrement quand on parle des droits de l'enfant. C'est d'un côté la protection. Tu évoquais cette espèce d'overbooking de certains enfants par une série d'activités qui leur empêchent d'avoir des temps vides. Donc il faut les protéger de cette espèce d'overbooking, il faut les protéger des éventuellement comportements agressifs, violents qu'ils pourraient rencontrer, des abus éventuels qu'ils peuvent rencontrer dans des activités de sport, de loisirs, du fait des adultes qui encadrent, mais aussi dans le cadre de leurs relations avec leurs condisciples, dans le cadre de la gestion de vie en collectivité. Je crois que c'est important d'avoir un regard par rapport à ça. Donc je dirais que la protection, c'est quand même un élément super important. Et je dirais que la meilleure manière de les protéger, c'est parfois de vraiment les inciter à la participation, qui est vraiment le maître mot de la Convention de 89. C'est considérer l'enfant comme étant pas un petit adulte, mais comme un être humain qui a la capacité de donner son avis, de participer. Quand on incite les enfants à participer, ils peuvent eux-mêmes être acteurs de protection à leur égard. Et donc ces deux angles d'approche sont très très importants, ne doivent jamais être mis en concurrence parce qu'ils peuvent se vivre en harmonie. Et quand les enfants sont protégés et sont invités à participer, en général leurs droits sont respectés. C'est vraiment pour moi les deux aspects les plus importants à soulever, protéger et inviter à la participation. Et l'un ne va pas sans l'autre. Mais je ne sais pas, moi je parle de manière très théorique évidemment. Et toi, comment est-ce que tu imagines appliquer ces droits de l'enfant dans le cadre des activités?
Mais donc tu as parlé de protection et de participation. Ce sont deux éléments vraiment importants. Et pour que ces deux éléments fonctionnent, selon moi, il faudrait vraiment d'abord une écoute active. Parce que quand on parle de participer, ce n'est pas spécialement participer à l'activité. C'est en fait de pouvoir aussi donner son avis. Et pour pouvoir donner son avis, les adultes, les animateurs, doivent être à l'écoute de l'enfant, à l'écoute des besoins, à l'écoute des envies. Et pour ça, il ne faut pas spécialement mettre en place des conseils d'enfants ou des tables de parole, parce que parfois les animateurs disent « mais ah, j'ai pas le temps de mettre en place tout ça ». Non, oui, l'écoute informelle est importante. Je dis toujours aux animateurs, vous devez être à l'écoute, mais vous devez aussi apporter une réponse aux enfants. Donc c'est pas seulement écouter, c'est aussi être entendu et prendre en compte. Et donc parfois, il faut donner une réponse à l'enfant et dire « je t'ai entendu, on va voir ensemble comment on peut soit régler la situation, comment on peut... répondre à tes envies. Parfois c'est pas toujours possible de répondre aux envies, mais alors il faut donner la réponse et expliquer pourquoi ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est le travail en équipe. Vous entendez la parole des enfants, vous observez une dynamique dans votre groupe. C'est en équipe aussi qu'on peut chercher des réponses, qu'on peut réfléchir ensemble pour comment apporter cette réponse à l'enfant. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux éléments que je pense essentiel pour pouvoir protéger les enfants, mais aussi pour que les enfants puissent participer. Est-ce que ça concerne en fait tous les enfants, les droits de l'enfant ?
Alors, idéalement, évidemment, tous les enfants devraient voir leurs droits garantis et reconnus, mais dans la vie de tous les jours, on sait bien que, y compris en matière d'accès aux loisirs de qualité, à une culture de qualité, à un sport de qualité, on voit bien qu'il y a des différences. Donc je ne vais pas redire, parce que dans le cadre de mon travail, c'est vraiment une préoccupation. La pauvreté infantile, c'est un vrai souci. Et donc les enfants qui vivent dans des familles pauvres sont souvent en situation en difficulté par rapport à l'accès à des loisirs, etc. Parce que ça vient en plus, ça vient après les besoins dits essentiels, manger, être habillé, avoir un toit, etc. pour les parents. Et donc clairement, il y a un souci. Et moi, je recommande évidemment que l'accès aux activités sportives de loisirs soit vraiment garanti pour tout le monde. Je pense aussi à des enfants spécifiques, des enfants migrants dont les parents ne sont pas en ordre de séjour. Alors on sait qu'ils peuvent aller à l'école, ça c'est garanti. Parfois pour des activités sportives et de loisirs, c'est loin d'être garanti. Et puis aussi pour les enfants en situation de handicap, c'est évident qu'on parle beaucoup d'inclusion à l'école et on sait qu'on est en panne, on sait qu'on a beaucoup de difficultés, mais on devrait aussi parfois regarder ce qui se passe dans les activités de loisirs et de sport, où là on voit bien que il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour favoriser l'inclusion de ces enfants à besoins spécifiques. Et je trouve que c'est une priorité parce que c'est facile, entre guillemets, de critiquer, et je le fais volontiers, le fait que les écoles ne sont pas assez ouvertes à l'inclusion des enfants à besoins spécifiques ou en situation de handicap. Mais je dois reconnaître que dans les activités de loisirs, je pense qu'on a encore un bon chemin et un bon travail à faire. Voilà, je ne sais pas, moi, et je ne sais pas d'ailleurs dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, ce que peuvent faire les coordinations ATL pour tenter d'améliorer ce tableau qui n'est pas toujours idyllique. Hein.
En tant qu'ordinatrice ATL, je voudrais dire qu'il ne faut pas voir que les freins. Il y a des solutions parfois toutes simples à appliquer. Et le rôle des coordinations ATL, c'est d'accompagner les structures d'accueil et de rechercher ensemble ces solutions simples.
Allez, super. Merci Coralie. Je pense qu'on
Merci
a fait
Bernard.
Effectivement un bon duo. Les organisateurs ont bien fait, hein, depuis le côté un peu méta et puis un côté terrain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.